podcast vous est offert par Vaudoise Assurance. Dans ce nouveau Smart Talk, nous rencontrons Adrien Perrotet, le fondateur de bodysport.ch. Nous discutons bien entendu économie, business, évolution des sites e-commerce, mais également nutrition, nutrition sportive et alimentation. Une discussion extrêmement intéressante que nous partageons avec vous aujourd'hui. Adrien, tu as créé ce site bodysport.ch qui est le leader, je crois, ou un des leaders régional en tout cas.
Ouais, en tout cas sur la Suisse romande, on est leader. Et sur la Suisse alémanique, on est deuxième.
D'accord, donc un site extrêmement performant il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore pensable de créer dans un domaine qui est quand même assez courant, la nutrition, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore pensable de réussir en lançant un site e-commerce dans un bien, une façon de parler de consommation?
Alors, je pense que c'est possible, mais ça va demander, nous on a lancé ça il y a 10 ans en arrière. 10 ans en arrière, tu avais beaucoup moins de compétiteurs, beaucoup moins de globalisation. Alors c'est toujours possible, mais il faudra beaucoup de moyens. Après, aujourd'hui, il existe plusieurs choses qui permettent d'accélérer. Il y a 10 ans en arrière, il te fallait des développeurs, etc. pour créer un site web. Aujourd'hui, en quelques clics, tu peux créer un site web et commencer à vendre. Mais par contre, tu te retrouves à des gros poids lourds comme Amazon, tu te retrouves avec des sites à l'étranger qui livrent en Suisse et des coûts publicitaires qui vont être très élevés. Donc, ouais. Un dans l'autre, oui, il y a un plus grand marché, mais c'est plus dur, il te faudra plus de moyens. Quelqu'un qui arrive avec des gros moyens, je pense qu'il y arrive.
Tu parles de coûts publicitaires plus élevés, c'est vrai que nous, on en parlait il y a longtemps, les coûts publicitaires sur les réseaux sociaux, sur des Facebook ads, etc., ça a drastiquement augmenté depuis 3 ans. Hein.
Ouais, c'est de la folie. Ben, si tu prends même il y a 10 ans en arrière, tu mettais une publicité sur Google Ads, ben, ça ne coûtait rien, tu étais sûr de drainer du trafic. Aujourd'hui, tu as une compétition de folie sur Facebook, comme c'est un système d'enchères. Ben, plus il y a de personnes, plus les prix montent. Et ça, c'est justement dans des business comme l'e-commerce, c'est des coûts qui sont incompréhensibles. Tu ne peux pas compresser ces coûts-là. Ouais. Parce que finalement, c'est ça qui draine le trafic. Ouais. Et tu en as besoin, sinon tu n'existes pas. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment des budgets publicitaires de malade.
Très important. Qu'est-ce que tu penses sur ce phénomène, hein, parce qu'on va parler de ça, ce phénomène, mais on parle de dropshipping, hein, cette méthode qui vise à ne rien créer, ne rien produire, ouais. mais de prendre des articles qui sont supposés bien se vendre d'une certaine région, faire un bon marketing et prendre des marges extrêmement importantes sur un produit qu'on ne fabrique pas. Est-ce que ton regard par rapport à ça, toi qui as créé un vrai site e-commerce?
Alors, chaque fois, on me demande si je fais du dropshipping. C'est une sorte d'insulte hein, quand on te dit tu fais du dropshipping aujourd'hui. Non, mais dans le sens, en fait, il y a toute une phase qui est arrivée où les gens, ils ont commencé à lancer du dropshipping. Parce que comme je t'ai dit, tu peux ouvrir un site web en 2-2 et vendre des produits. Et l'idée, c'était de prendre des produits qui sont en Chine, qui sont vendus sur des plateformes chinoises à ultra bas prix. Par exemple, tu prends, un jouet qui vaut 10$ là-bas. Tu fais une belle page de vente ou tu fais un e-commerce, tu le vends 60. La personne, elle le commande sur ton site internet, ça passe commande auprès de la plateforme chinoise et il est expédié depuis la Chine. En gros, tu n'as aucun stock, tu n'as aucune prise de risque et tu fais une belle marge dessus. Donc ça a tout d'un coup explosé sur internet, il y en avait plein. Ça, c'est le dropshipping qu'on connaît aujourd'hui, c'est en train de s'essouffler parce que les coûts publicitaires commencent à être tellement élevés. Les gens, ils commencent à voir que c'est du dropshipping parce que la qualité, elle ne suit pas par rapport au prix. Ouais. Et du coup, c'est en train de s'essouffler vraiment le dropshipping. Après, tu as tout ce qui est, on va dire, marketplace. Ce n'est pas vraiment du dropshipping. Par exemple, Galaxus, qui vend des produits, mais il ne les possède pas vraiment. Ça veut dire que nous, par exemple, on vend sur Galaxus, mais les produits ils partent de notre entrepôt. Ils ne sont pas stockés chez Galaxus.
Donc, c'est du dropshipping aussi.
C'est du dropshipping, mais en gros, on appelle plutôt ça marketplace. Parce que si tu veux, ce n'est pas eux qui vont gérer le prix final. C'est le vendeur. Donc nous, on est vendeur, on se positionne là-dessus, on met le prix qu'on veut, les gens achètent, on expédie aux gens et ils prennent une commission. Alors que le dropshipping, c'est vraiment une personne qui possède
un site. Peut mettre le prix de vente qu'il souhaite.
Qui souhaite et qui fait venir ça de Chine, en règle générale. Hein. Tu ne fais pas venir ça… Tu vas chercher ce produit dans un pays où tu lui coûte vraiment pas cher et il est expédié directement de là-bas.
D'accord. Comment ça se fait que tu aies lancé il y a une dizaine d'années un e-commerce dans la nutrition? C'est quelque chose dans lequel tu es passionné ou tu penses qu'il y avait vraiment une lacune sur le marché?
Alors, pour la petite histoire, je ne suis pas passionné de nutrition. Mais j'étais parti en Angleterre. Là, j'avais pris beaucoup de poids. Et en attendant, mon frère, lui, il avait pris beaucoup de muscles en Suisse. Il s'était commencé à faire de la musculation, etc. Et il commandait des protéines aux États-Unis. Ça te prenait une plombe. C'était pas le DHL d'aujourd'hui. Tu avais les frais de douane, etc. Puis il commandait tout le temps là, ses potes aussi. Puis j'ai dit, bah, c'est bizarre, il n'y a rien en Suisse. Il dit, non, c'est pas beaucoup développé en Europe. Je dis, bon, il y a peut-être un créneau. On nous vite fait un site internet. À l'époque, il fallait quand même développer un peu.
Ouais,
On développe un petit
même plus
truc,
qu'un
même
peu,
plus un peu, ouais. On développe vite fait et on achète, on va voir un fournisseur, on prend un peu des prods, on les stocke dans un appartement, dans mon appartement, et on commence à les vendre sur Internet. Puis là, on voit que ça prend. Puis, fur et à mesure, bah, avec le temps, bah, on s'est élargi, élargi, élargi. Puis, bah, voilà, 10 ans après, bah, on devient ça.
Mais toi, tu avais une formation, tu es informaticien à la base,
Voilà, moi
juste?
j'avais une formation d'informatique de gestion et économiste d'entreprise. Donc du coup, un dans l'autre, ben voilà, ça m'a permis de ne pas faire appel à un informaticien pour installer les scripts, pour mettre tout ça en place. J'ai pu le faire moi-même. Donc évidemment, le gain pour lancer ça,
Énorme.
il est énorme parce que te payer un informaticien en Suisse,
Ouais.
c'est énorme, énorme.
Est-ce que c'est justement ça, c'est une bonne question. Est-ce que quoi, c'est quelque chose qui m'intéresse en tout cas. Est-ce que à l'époque, il fallait être, c'était des informaticiens qui voyaient une solution technologique et qui créaient un site e-commerce, alors qu'aujourd'hui, c'est plus des businessmen qui vont utiliser des informaticiens pour créer des choses. Tu vois, je veux dire, est-ce que l'approche et l'idée.
Alors, c'est, je pense qu'un enfin, c'est dur, mais un informaticien pur, il n'a peut-être pas la fibre d'entreprendre. Moi, j'étais informatique de gestion et j'avais de l'économie d'entreprise. J'avais pris informatique parce qu'à l'époque, c'était tout le monde prenait informatique parce que c'était un truc cool. Et ça m'a aidé d'avoir les deux et de comprendre. Après, je ne suis pas un très bon développeur, donc ça m'a juste permis d'installer, de poser des trucs et de lancer ça. Aujourd'hui, les gens qui lancent ces business, il faut vraiment avoir un mindset d'entrepreneur, sinon ça va être très dur. Il faut voir large, tu dois gérer les Facebook, tu dois gérer les produits, tu dois gérer les stocks. Enfin, c'est vraiment du multifacette. Et si tu es juste informaticien, enfin,
C'est
tu
clair.
poses, mais tu n'arrives pas à le vendre.
T'avais quoi? T'avais 25 ans que t'as ouvert ça?
C'est ça, ouais, 25
25
ans.
ans?
Ouais.
C'est facile à 25 ans de lancer sa boîte? Parce que je pense qu'entre il y a 10 ans
Ouais.
et aujourd'hui d'avoir 25 ans créer sa boîte, il y a eu un grand changement en termes de facilité de, déjà administrative et technologique pour créer sa boîte.
Ouais, alors en tout cas, il y a 10 ans en arrière, bah, tu avais déjà beaucoup moins d'informations, beaucoup moins d'aide. C'était moins courant, on va dire. Aujourd'hui, c'est vrai que tu entends tout le monde qui ouvre des startups, etc. Tout est guidé, on te pousse aussi à ouvrir. Il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas tout ce mindset-là autour. Et après, bah, les facilités d'ouvrir, bah, c'est que tu pars toujours d'une petite idée. Je ne suis pas parti avec un énorme site internet. On avait juste un petit stock à la maison. Après, tu pars avec un premier entrepôt, etc. Donc, en 10 ans, on est monté gentiment. Et du coup, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux peut-être partir plus fort qu'il y a 10 ans en arrière.
Bon, vous êtes grimpé gentiment, mais quand même une belle différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Tu as une entreprise quand même qui comporte plusieurs, quoi, plus de 10 collaborateurs, hein.
Voilà, ouais.
Comment c'est? Parce que entre 25 et 35 ans, déjà humainement, je crois qu'on évolue passablement,
Ouais,
en tout cas
tout à
supposé.
fait.
Au niveau professionnel, c'est un des moments de notre vie où on apprend le plus, hein.
Clairement.
Mais pendant cette période-là, toi, tu avais la responsabilité de chef d'entreprise. Est-ce que tu te dis aujourd'hui, waouh, c'était quand même costaud?
Ouais, alors des fois je me dis, si je savais tout ça, est-ce que je me serais lancé? Je pense pas. Je pense pas. Après, ça a été un apprentissage. Tu lances ton entreprise, tu dis cool, c'est cool au début. T'es dedans, t'es une petite équipe, t'es deux, c'est génial.
Puis t'es
Puis après,
fier aussi.
t'es fier, voilà, tout va bien. Puis après, en fait, plus tu montes, plus tu commences à avoir des choses. Tu as des employés, donc il faut gérer les employés, il faut gérer les RH, il faut gérer les. Et s'il y a un tas de choses qui arrivent, et au bout d'un moment, tu n'es plus le créateur de ton entreprise, tu es un peu, je dirais, l'esclave de ton entreprise. Tu es employé de ton entreprise. C'est-à-dire que tu fais plus qui te plaisait quand tu as lancé ça, mais tu fais l'administratif, tu fais la gestion des employés. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était pas cool, où ça te fatigue, où tu es en burn-out, où tu as l'impression pourquoi tu as lancé ça, parce qu'au final, tu fais que ce qui te plaît pas. Et du coup, ben oui, tu apprends à déléguer, tu apprends tout ça, tu as beau faire toutes les écoles que tu veux, on te l'apprend pas, on t'apprend pas à gérer l'humain. Au début, c'est vrai que même j'ai eu des employés, c'est dur à gérer, tu dois savoir parler aux employés, tu dois savoir leur donner des ordres, tu dois savoir donner des tâches. Et c'est pas facile, ça.
Ça, c'est l'axe le plus compliqué. Si tu devais dire quel est l'axe qui t'a le plus
Ouais,
surpris en termes de
ça c'est ça, ouais.
Ouais.
Alors maintenant, j'ai mon frère qui travaille avec moi, qui gère les employés, il arrive très très bien à faire ça. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, ouais, tu peux être un très bon entrepreneur, c'est-à-dire avoir l'idée, mais gérer des gens, c'est autre chose.
Mais
C'est...
overall, c'était une super expérience. Est-ce que c'était quelques années de sacrifice pour
Oui,
beaucoup
alors
d'années de
si tu
liberté?
prends le chemin, c'est une magnifique expérience.
Ouais.
Si je devrais la refaire, oui, je pense que je la referais avec plaisir. Et tu apprends tout le long, en fait, tout le temps. Et j'apprends toujours aujourd'hui, ça te développe. Et c'est vrai qu'il y a plein de facettes. Tu n'en as aucune idée. Quand je devais avoir quoi, 26 ans, je suis allé voir des grandes boîtes pour avoir leur marque. Tu te retrouves devant une tablée de 10 gars qui ont 40 ans. Puis toi, tu arrives là, puis tu dis, bon, on a envie de vous distribuer en Suisse. Je dis, mais d'où tu viens, tu vois? Et ça, c'est des choses que tu t'es obligé de te sortir tout le temps de ta zone de confort
Ouais.
pendant des années, des années. Après, ça vient à ta zone de confort.
Mais cette perception de l'entrepreneur qui s'assoit à une grande table remplie de seniors qui ont 20 ans d'expérience, cette perception, elle est gentiment en train de changer. C'est-à-dire qu'on commence de plus en plus à prendre au sérieux les jeunes qui lancent leur business.
Oui, après, il reste toujours ce défaut où tu es un jeune. Tu es un jeune qui arrive. Donc,
Ouais.
tu te retrouves avec des gens qui ont de l'expérience et tu restes un jeune, même si aujourd'hui, ils se disent, bah oui, il y a des startups qui cartonnent, donc du coup, on va les écouter, mais tu restes quand même un jeune
Ouais.
et ils en voient beaucoup plus défiler encore. Donc,
Je
il faut
comprends.
vraiment que tu sortes du
Bon,
lot.
tu es rentré dans un domaine d'activité où le côté légal et compliance whatsoever de l'alimentation, hein, qui est quand même, en tout cas dans le pays, je ne sais pas dans les autres, mais qui est très réglementé.
Ouais,
On
tout
est
à fait.
dans un monde de pharma aussi, dans un pays de pharma, etc. Est-ce que ce domaine spécifique d'industrie dans laquelle tu t'es lancé, tu pensais que c'était peut-être moins réglementé? Est-ce que tu as eu des soucis par rapport à ça ou des complications, en tout cas plus de travail que prévu?
Alors, on savait que c'était réglementé. Après, voilà, on est au niveau suisse et il y a une réglementation suisse et tu as une réglementation européenne. La réglementation suisse, elle est assez stricte, surtout en matière de vitamines, parce qu'on empiète très vite sur la pharma. La pharma, c'est réservé à un champ d'action qui est quand même très, très grand en Suisse, qui permet de faire beaucoup de choses. Et du coup, dès qu'on touche quelque chose ou un ingrédient qui est réservé par la pharma, on ne peut plus vendre ce produit. Alors, le gros problème, c'est que ben, voilà, nous, on est régulé par ça, on se met aux normes. Il y a plein de produits qu'on ne peut pas vendre en Suisse. Mais du coup, on a une concurrence déloyale, c'est-à-dire que ces gens peuvent l'acheter à l'étranger. Ça passe les douanes sans problème parce que c'est acheté à titre privé. Et du coup, ben voilà, nous, on se retrouve avec des produits qui ne passent pas, mais les gens peuvent l'acheter à l'étranger.
Mais juste pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire que certaines molécules ou certains produits en Suisse sont distribués exclusivement à certaines entreprises.
Alors non, mais par exemple, je prends un truc tout bête, c'est la dose de vitamine, par exemple. Nous, on a une dose maximale de vitamine dans un produit.
OK.
Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, on fait un multivitamine, d'accord? Ce multivitamine, il a la vitamine C qui est dosée à 200%. En France, il peut être vendu, quelqu'un d'ici peut l'acheter en France, mais nous, on ne peut pas parce qu'il est dosé à 200%, alors qu'en Suisse, c'est 100%.
Mais par contre, un
Par contre,
consommateur peut aller acheter en France, payer les
voilà,
frais de douane.
exactement. Par contre, de l'autre côté, tu as le Beroca Boost qui appartient à la pharmacie, et eux, la vitamine C, elle est à 200%. Mais parce que c'est un produit qui a été fait par la pharma, enregistré par la pharma. C'est ça
Ouais.
le dilemme ici, c'est que la réglementation suisse, elle est pas juste
Ouais.
pour tout le monde, en fait.
D'accord, je comprends. Et ça pose vraiment un problème au quotidien, j'imagine, non?
Bah, ça pose un problème, c'est qu'on aurait pu scaler beaucoup plus si on aurait pu mettre tous les produits. Il y a des produits qui sont très intéressants à être vendus en Suisse, mais on ne peut pas. Donc on est limité dans notre champ d'action de vente et il y a plein de produits qu'on pourrait vendre ici.
Bon, en allant voir votre site, vous avez quand même une gamme très large, hein, assez impressionnante.
Ouais, on a quand même beaucoup, beaucoup de références. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on avait commencé il y a 10 ans en arrière avec des protéines pour les bodybuilders
Oui.
et au fur et à mesure, on a compris qu'il fallait s'agrandir parce que les compléments pour les bodybuilders, c'est une niche. Aujourd'hui, tout le monde fait du sport, tout le monde a besoin de vitamines, tout le monde a besoin de cosmétiques. Donc, on a vraiment élargi dans l'idée d'avoir une sorte d'Amazon du bien-être. Vraiment, si tu cherches un produit pour le bien-être, Santé, t'es sur notre site.
Ce qui est le cas, hein. Moi j'ai parcouru un peu votre site, j'étais vraiment impressionné parce que c'est vrai que, bon, peut-être c'est lié au nom, hein, Body Sport.
Ouais.
On s'attend à avoir beaucoup de protéines, bien entendu,
ouais,
de sport, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de vitamines, des cures de détox.
Ouais.
Personnellement, j'en ai commenté. différents nutriments que j'étais vraiment surpris de voir. Quel est ton regard par rapport à cette tendance, ou je ne sais pas si je peux me permettre de dire tendance, ou si c'est quelque chose qui va être linéaire, ou si est-ce que c'est un cycle. Mais aujourd'hui, qu'on aille à la COP, à la Migros, ou chez n'importe quel distributeur d'aliments, on voit tout qui est aux protéines. Y a bientôt la bière aux protéines qui existe, il y a des barres de chocolat aux protéines, tout ça. Et ça depuis 3-4 ans, on ne voyait pas avant.
Ouais.
Et c'est une tendance ou c'est un axe marketing que les gens veulent exploiter?
Alors, il y a deux choses. C'est que la tendance de tout ce qui est nutrition est sans fin actuellement. Ça vient beaucoup des États-Unis où c'est déjà en place depuis des années. Donc, tout ce qui est nutrition, les gens sont plus sensibilisés au fait qu'il leur manque des vitamines, qu'il leur manque certaines choses. Il y a beaucoup plus de personnes qui font du sport et du fitness. Et aussi, c'est cet axe marketing où il y a 5 ans en arrière, c'était tout light, 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 light. Ouais. Et aujourd'hui, de rajouter le mot protéine, si tu vas à la Migros et tu as le yogourt sans protéine et avec, les gens, ils vont prendre la version protéine. Parce que dans leur tête, voilà, on va prendre une protéine, je vais gagner du muscle et c'est dans le mindset, c'est voilà, je vais prendre ça.
Mais c'est vrai ou c'est faux?
Alors, si tu fais rien, ça ne sert à rien en fait, la protéine. Alors, pour un sédentaire, par jour, c'est 50-60 grammes de protéines, ce qui dans ta journée en mangeant de la viande ou peu importe, tu l'as sans problème. Quelqu'un qui fait du sport, de la musculation, on est plus dans du 180. Donc quelqu'un qui fait de la musculation, ça a tout à fait sens de prendre des protéines, parce qu'il faut nourrir le muscle après avoir fait ta séance.
Ouais.
Par contre, quelqu'un de sédentaire, ça ne sert à rien.
Qu'est-ce qui se passe si on mange trop de protéines?
Alors, le problème de manger trop de protéines, c'est qu'après, le corps, en fait, c'est les reins qui vont essayer d'éliminer ça. Donc, ça peut fatiguer tes reins, etc. Un surplus de protéines, c'est inutile, en fait.
D'accord.
Pour quelqu'un qui ne fait rien et qui est au bureau,
ouais,
c'est nul.
Alors, tu n'es pas de formation nutritionniste, tu n'es pas médecin. Je vais quand même te poser la question, parce que c'est une question que je pense tout le monde se pose. C'est toute la désinformation,
ouais,
ou la communication liée à l'alimentation. Moi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le flou. Hein. C'est qu'on nous dit pendant des dizaines, des décennies qu'il faut prendre des fruits le matin. Après, on nous dit, mais non, mais prends pas des fruits, c'est rempli de sucre. Ou il faut les prendre à jeun pour qu'il y ait une nutrition. Ou il faut les prendre avec les pulpes. Sans pulpe, ça sert à rien. Mais de l'autre côté, on va à la COP, on voit 100% bio, magnifique, zéro sucre ajouté. Donc, on se dit, mais au bout d'un moment, la désinformation du monde alimentaire, des marques, des entreprises alimentaires, et le manque d'information et de communication des spécialistes de la nutrition est assez flagrant.
Tout ça, c'est voulu. C'est-à-dire que derrière, en fait, tu as des lobbies qui vont essayer de t'imposer une idée pour que tu achètes leurs produits. C'est comme de boire un jus d'orange le matin. Ça ne vaut rien. Mais c'est juste derrière, je pense, le lobby des oranges. Mmh. Qui gentiment t'a fait rentrer ça dans la tête, comme quoi il y a de la vitamine C et que c'est important de prendre le matin. Mais aujourd'hui, dans une orange qui est cueillie en Espagne à moitié mûre, il n'y a plus de vitamines. Et c'est tous des lobbies qui vont essayer justement de te rentrer ça dans la tête. Mmh. C'est comme le lobby du sucre qui a essayé pendant des années de te faire croire que le gras c'était mauvais mais que le sucre c'était bon. Enfin, que des choses comme ça où ils ne vont pas manipuler, mais ils vont créer des informations qui vont rendre le consommateur flou. Et quand le consommateur est totalement flouté, il ne cherche plus à comprendre.
Mmh.
C'est qu'en fait, tu lui envoies des tonnes d'informations, des informations, et finalement, il ne sait plus ce qui est bon ou pas bon, et il achète. Et c'est ça, c'est la même chose, le yogourt aux protéines, quand tu vas, la même chose, bah, tu m'as dit les fruits et légumes,
ouais.
Après, ils te disent les produits laitiers, mais ouais. Derrière les produits laitiers, il y avait l'industrie du fromage et des produits laitiers qui voulaient augmenter leur vente. Et du coup, c'est du marketing détourné,
mmh,
où tu payes certaines études,
mmh,
qui sont faites. Alors certainement que les produits laitiers, ça apporte du calcium, mais comme n'importe autre chose.
Ouais.
Donc du coup, en fait, en créant tout ça, bah, tu perds le consommateur, mmh, et le consommateur consomme.
Comment faire aujourd'hui pour savoir la vérité? Je te parle du consommateur, hein, du citoyen lambda. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quand on va à la COP ou dans le marchand de savoir qu'est-ce qui est réellement bon ou pas? C'est commencer à apprendre à déchiffrer les étiquettes. C'est arrêter d'être crédule par rapport au packaging et au marketing. Est-ce que tu as une réponse à ça ou peut-être tu
Alors,
l'as pas,
franchement,
hein?
j'ai pas de réponse. Le meilleur moyen, en fait, c'est surtout pas lire ce qui marque sur les en marketing, hein, parce que tu en as certains, ils vont te dire sans additif ou sans sucre ajouté, mais derrière, tu as une teneur en sucre qui est élevée, mais ils n'ont pas rajouté parce que c'est celui du fructose. Enfin, tu as toujours des moyens de détourner ça. Le mieux, c'est de prendre l'étiquette nutritionnelle et de la lire. Et encore, en la lisant, il faut être conscient parce que tu vas te dire, bon, là, il y a du sucre, du gras, il y a des gens qui voudront, ils vont dire, ah, c'est trop gras, donc je ne vais pas le prendre. Donc, c'est assez compliqué. En Europe, ils ont inventé le Nutri-Score, c'est-à-dire que c'est une lettre qui te dit si dans l'ensemble c'est bon ou pas bon.
Ah, c'est bien ça. Dans quel pays t'as dit?
En Europe, ça va
En
être.
Europe, ça va
Ouais.
être. Ah ouais.
Mais le problème, c'est sur quoi tu le bases, le Nutri-Score. Tu le bases sur la teneur en sucre, en gras, en
Et
quoi?
tout ça, c'est comme tu viens de le
Et
dire,
les
c'est
lobbies
extrêmement.
derrière, ils ont bossé pour dire non, non, la teneur en sucre, elle doit être de plus 10 pour passer là. La teneur... et du coup, ce Nutri-Score, il est à nouveau faux.
Et puis en plus, ce qui est bien pour une personne n'est pas forcément bien pour l'autre personne.
C'est ça. Et l'autre problème du Nutri-Score, c'est que tu dis, ah, c'est Nutri-Score A. Ah, là, je peux en manger beaucoup. Enfin, c'est toujours pas la solution. La solution, c'est que les gens regardent l'étiquette nutritionnelle ou font attention à ce qu'ils mangent.
Du coup, est-ce que moi j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas comment l'exprimer, de vivre quelques années aux États-Unis quand j'avais 20 ans. Et déjà, il y a 20 ans, ils avaient une sorte de valise le matin, hein, un petit coffret qu'ils ouvrent à pilule. Et puis, ils prenaient tout ce que le corps a besoin.
C'est
Et
ça.
le restant de la journée, ils disaient, I don't give a because I can eat whatever I want, parce que j'ai pris tout ce que. Est-ce que c'est dramatique d'en arriver là, ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être une des solutions?
C'est vrai qu'aux États-Unis, ils le font depuis beaucoup d'années. Bah, c'est principalement parce qu'ils n'ont pas d'assurance maladie. Donc, du coup, ils ont dans cette optique-là de toujours essayer de prendre soin d'eux, de ne pas avoir de carence parce qu'ils n'ont pas d'assurance maladie. Chez nous, dès qu'on est malade, on se tourne vers
En tout cas,
la
pas
pharma.
obligatoire, on va dire.
Pas obligatoire, voilà. Bah, beaucoup d'Américains ne l'ont pas. Ici, c'est vrai que nous, on se tourne très vite vers la pharma dès qu'il nous manque quelque chose, etc. On a une carence, tac, on va aller voir le médecin. Donc, du coup, les Américains sont vraiment sensibilisés à ça. Je sais qu'ici aussi, maintenant, tu as plein de gens, le matin, ils prennent leur stack vitamines, minéraux, zinc, parce que gentiment, ils comprennent que dans l'alimentation du quotidien, tu l'as plus. Les fruits et légumes que tu mangeais il y a 10 ans, ils n'ont plus la même teneur en vitamines aujourd'hui. Quand tu fais venir une pomme d'Espagne, comme je disais, elle est encore jeune. Quand ils la prennent, elle mûrit dans le camion. Elle perd toutes ses vitamines. Donc, voilà, c'est. Je pense que ça va gentiment être la même chose ici où les gens devront se supplémenter pour avoir vraiment leurs éléments de base. Pas être à 300% de vitamines, mais juste avoir les éléments de base parce que tu ne les as plus dans la nutrition.
Vous avez beaucoup de clients qui vous appellent parce qu'ils ont besoin justement de conseils par rapport à qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce qu'ils devraient prendre, ou les gens ne font pas ces démarches-là.
Alors, bon, on a un très bon site internet, donc les gens. Non, on guide bien les gens, on explique déjà très bien. Et après, bah, évidemment, on a un service client, il y a des gens qui nous appellent pour demander, voilà, j'aimerais perdre du poids, ou voilà, j'aimerais me muscler, comment faire, j'ai besoin de protéines, de choses
Donc
comme ça.
toi, tu dois quand même former l'ensemble de ton équipe sur tous les produits. Vous avez une sacrée quantité de produits, hein.
Ouais, alors j'ai une équipe qui est passionnée de ça.
D'accord.
Ils font tous de la musculation ou du sport. Donc, ils sont au courant de tous les produits. Ils regardent les nouveautés aux États-Unis. Donc, ils sont vraiment au courant de tout.
D'accord.
Après, voilà, chaque produit, il y a quelques spécifications, mais dans l'ensemble, ça reste les mêmes choses.
Tu parles de ton équipe, tu as dû aussi apprendre à manager une quinzaine de personnes. Je veux dire, ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas automatiquement. C'est un des axes, comme tu l'as dit, qui est le plus compliqué. Comment est-ce qu'aujourd'hui, plutôt, comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères ton équipe? Quel est ton style de management dans un domaine qui voilà, tu n'es pas une banque privée non plus, donc tu peux
Non.
certainement avoir une certaine liberté avec les gens, etc. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de laisser de liberté dans le management. D'autres sont toujours très stricts et très rigides, etc. Quelle est ta vision par rapport à ça?
Alors nous, on a essayé de maintenir ce côté un peu start-up où tout le monde a son mot à dire. Il n'y a pas une hiérarchie. Il y a juste bah, mon frère qui travaille avec moi qui gère les objectifs par semaine. On se fixe des objectifs par semaine. Et chacun est un peu libre de son travail. On n'est pas dans une procédure en pyramide où voilà, tu dois remonter l'information. Et on donne une liberté quand même à chacun parce que c'est très important d'avoir le côté créatif en permanence. Ouais. Ils ont du temps libre pour aller chercher des nouvelles idées, des nouveaux produits. Donc du coup, pour moi, c'est très important de maintenir ce côté créatif. Si tu en fais des robots qui font toujours la même tâche, ils se lassent, ils se lassent. Et du coup, c'est vrai que chez nous, ils ont tendance à faire beaucoup de choses différentes, ouais. Des fois même des choses qui n'ont rien à voir. Quelqu'un qui est en marketing, tout d'un coup, peut-être il va aller aider en logistique,
ouais,
etc.
De la variété, de, exactement.
Juste histoire de voir quelque chose de différent, de voir comment ça joue.
Okay.
Et c'est important.
Les prochaines étapes du développement de Bodysport, si tu peux partager, bien entendu, mais tu voudrais développer ton entreprise dans quelle direction?
Alors, nous, on essaye. Bon, voilà, maintenant, on a beaucoup, beaucoup de produits. On peut toujours en ajouter, surtout que le monde de la nutrition, c'est venu maintenant presque comme de la mode. Ils sortent des produits trend, ça dure 6 mois, on passe à un suivant.
Sérieux?
C'est vraiment de la folie. Là, on avait des petits bonbons que nous, on a créés aussi. C'était pour les femmes qui permettent justement d'avoir plus de cheveux, en fait, qui t'aident dans la croissance
D'accord.
des cheveux. Donc, tout joli.
Quelles sont les tendances là actuellement, les produits phares qui sont…
Alors, il y avait ça typiquement sur ce bonbon. Et maintenant, en fait, la grande mode, c'est tout mettre sous bonbon, comme les petits Haribo.
Okay.
Parce que du coup, les pilules, ben, tu vois, c'est moins ludique, tu vois.
Oui.
Alors, en prenant les bonbons, tu n'as plus l'impression de prendre des compléments.
Qu'est-ce que tu penses du côté médicamenteux? Oh putain, je sais même pas si, pardon, je sais même pas si c'est français, mais sous forme de vape, hein? On a entendu que Philip Morris vient d'acquérir une grande, grande entreprise de vaping et de faire.
Ok, alors ça, je.
Tu t'as pas encore,
ça, alors ça, je sais pas. Alors,
d'accord.
Il paraît
que c'est la grande tendance, hein, c'est d'inhaler à travers
ouais.
la vapeur où ça rentre, je crois, en 10 ou 15 secondes directement dans le système,
d'accord.
des médicaments, voire peut-être des protéines.
Alors après, c'est savoir parce que certaines choses doivent passer justement d'être métabolisées par ton corps
ouais.
pour passer dans le sang ou ailleurs. Donc à travers la vape, ça passe par tes poumons.
C'est
voilà,
à
encore voir le marketing là-dessus. Là, je suis très sceptique.
Okay.
Je ne sais pas du tout, mais oui, tu as des trends comme ça. Par exemple, aujourd'hui, c'est le trend du collagène aux États-Unis. Je pense que dans peu de temps, on va voir des yogourts au collagène parce que justement, les femmes, elles utilisent ça pour les rides, etc. Donc,
rappelle-nous ce que c'est que le collagène pour ceux qui savent.
En gros, c'est quelque chose qui t'aide pour la peau, qui te l'assouplit, etc.,
d'accord.
pour le vieillissement.
D'accord.
Voilà, les femmes l'utilisent beaucoup. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, maintenant, c'est très trend de faire ça. Ils vont nous sortir un autre. Il y avait la spiruline à un moment aussi.
Mais il y a toujours.
Il y a toujours, mais un peu moins. Il y a un moment, c'était tout spiruline. Ils en inventent tout le temps, tout le temps. Et c'est en fait, on est rentré dans un côté où voilà, c'est comme une mode.
Mais en plus, c'est facile parce que moi, le premier, on rentre dedans. Parce que du moment qu'on se dit c'est le dernier truc qui va faire en sorte que vous vous sentez mieux ou que vous ayez meilleure tronche, bah forcément,
tu te dis,
vu que c'est des prix qui sont quand même raisonnables, on fonce
dessus.
Tu te dis
dans le doute, ça peut être marche 1%, c'est déjà 1% de gagné, tu vois
c'est
ce que je veux dire.
Exactement ça.
Et il joue sur ça. Et maintenant, le développement d'un produit, c'est, je pense, 80%, c'est du marketing.
Ouais. À qui le. Non, mais d'abord, finis la question. C'est quoi le projet de développement de ton entreprise?
Alors, nous, on va essayer de toujours essayer de se développer sur. En fait, vraiment, de guider nos clients au sein de notre entreprise, enfin, surtout du site. Que justement, on a mis en place là, un système qui, dès qu'ils ont fini le produit, ça les rappelle qu'il faut recommander. On va plus essayer de travailler au sein de nos propres clients pour essayer toujours de les guider ou de.
Ouais.
Qu'ils consomment plus certains produits.
D'accord. Ouais.
Et après, ben, au niveau suisse, on va essayer toujours de s'agrandir, mais on va toujours rester au niveau e-commerce.
Ouais.
On va pas, la tendance, c'est surtout pas d'aller dans des magasins physiques.
D'accord.
À l'époque, on était en France et en Belgique aussi.
Ouais.
Là, on a réduit les voilures parce qu'on est sur des marchés qui sont ultra concurrentiels. Pour un franc, les personnes vont ailleurs.
Ouais.
Donc là, maintenant, ben, dans nos futurs développements, on a des marques qui sont à nous aussi puis qu'on a développées.
Tu disais que maintenant, une des axes prioritaires, et je le comprends, je trouve ça très logique, c'est de faire du upselling et puis de vendre plus aux clients qui… Donc, tout ça passe par une phase de rétention et donc de fidélisation de ton portefeuille client. Est-ce que justement, la fidélisation, ça va être à travers du big data, de commencer à analyser un petit peu qu'est-ce qu'ils achètent, à quelle fréquence et quelle serait normalement, en fonction de cette consommation « average », l'extension de ça ou la prochaine étape ou est-ce que tu vois des incohérences dans la fréquence de consommation? Est-ce que tout ça, vous êtes déjà dans un système informatique qui vous permet d'analyser ça?
Ouais, alors nous, on analyse énormément comment les gens commandent,
ouais.
la fréquence. Le site, en fait, il s'adapte par rapport à ce que tu as consommé. Si tu arrives sur la page d'accueil, si tu arrives dans les recommandations, tout ça, ça change. par rapport à comment tu as navigué sur le site internet.
Si tu te logs sur le site ou en fonction de ton IP?
Par rapport à ton cookie. Donc, t'as
Ok.
Donc en fait, tu vas naviguer, tac, il t'a identifié. À un moment, tu t'inscris, tu vas t'identifier en tant que femme, homme. Tac, tu as commandé des vitamines, bah, paf, la page d'accueil, ça va être plutôt orienté vitamines. Ou si tu as pris des cosmétiques, ça va être plus des cosmétiques parce que ça ne sert à rien qu'on te mette une
C'est
protéine.
génial.
Donc on voit que tu n'es pas intéressé par une protéine. Donc toute cette big data, ça nous sert déjà à personnaliser le site internet, les recommandations. Et puis après, ben voilà, on calcule la fréquence, on sait justement chaque produit combien il dure. Et ben, par exemple, je prends tout bête, une cure de vitamine, un mois, ça ne suffit pas. Il faudrait 3 mois. Et du coup, on t'envoie un SMS parce qu'on sait qu'au bout d'un mois, tu auras consommé ton produit. Et en
Excellent.
one click, tu as recommandé ton produit gratuit, enfin, cette
Excellent.
porte gratuite chez toi.
Est-ce que vous avez des systèmes, et ça existe déjà, bon, j'imagine, je suis très naïf des fois, mais des systèmes de newsletters personnalisés, automatisés, avec mise en avant de produits, etc.
Alors ouais, on a des systèmes de newsletter. Alors on a essayé on les personnalise, mais maintenant on les personnalise un petit peu de moins en moins. On les personnalise par domaine ou par sexe, homme-femme. Mais de trop personnaliser, en fait, on s'est rendu compte que des fois, c'est bien d'attirer l'œil sur, je ne sais pas, nous, c'est toujours des promotions, sur une promotion qui est un petit peu décalée par rapport à ce qu'il consomme. Quelqu'un qui achète, je ne sais pas, des cosmétiques, il serait peut-être aussi intéressé par tout d'un coup perdre du poids. Donc, c'est dommage qu'il ne voie pas l'offre de perte de poids. Donc, on a arrêté de personnaliser trop les newsletters, typiquement juste pour le client.
Oui, ça a du sens pour être aussi intéressé, susceptible d'être
Trop
intéressé par d'autres
personnalisé, des
choses.
fois
Ouais,
tu
ouais,
perds. Il faut trouver juste milieu.
ouais. Adrien, toi qui maintenant es un entrepreneur expérimenté, aguerri, heureux,
Je suis encore un petit.
quelle serait, c'est une question qu'on pose très très souvent, voire tout le temps, parce que c'est vraiment intéressant pour les jeunes, surtout dans ce post-Covid, où on n'est pas encore post, hein, mais on est Covid en tout cas, où les jeunes sont un petit peu les dents serrées par rapport à leur avenir et qui voudraient pourquoi pas se lancer parce qu'ils ont l'appel à trouver du travail, etc. Quelles seraient les recommandations, les deux ou trois conseils qu'aujourd'hui, si tu avais si t'étais plus âgé avec un enfant de 20 ans qui disait papa, je vais me lancer, tu lui donnerais comme conseil?
Alors déjà, je lui dirais de se lancer,
Oui.
parce que se lancer quand on est jeune et qu'on n'a rien, c'est beaucoup plus simple que quand on aura 35 ans, le leasing, la famille, etc. et un gros salaire.
C'est fou parce que trois quarts des entrepreneurs, je pose la question, ils ont la même réponse que toi.
C'est ça,
Allez-y.
mais c'est ça, parce que franchement, après, tu connais un confort que quand tu redescends, ça va être compliqué et tu vas lancer ton entreprise directement avec la recherche d'une rentabilité. C'est-à-dire que tu vas lancer cette entreprise et tu voudras tout de suite avoir de l'argent. Alors, c'est le but quand même, mais tu dois comme être passionné. Tu lances une entreprise pour être passionné, pour aller tous les jours, tu arrives au bureau, tu as une motivation. Et oui, l'argent, c'est aussi quelque chose, mais si tu te focalises, genre, faire des milliards avec ça, tu vas t'y perdre. Parce que pendant un bout de temps, ça va être très très bas.
Ok, donc foncez, y allez.
Foncer, trouver une idée. Des fois, en fait, le problème que les gens ils ont, c'est qu'ils ont une idée, mais c'est une idée en fait qui est basée sur un manque à eux ou qui ont envie. Mais l'idée, elle peut être bien, mais il faut savoir la vendre. Et c'est ça le plus important. Tu peux faire la plus belle des idées, le plus beau des produits. Et j'ai vu des entrepreneurs développer des produits pendant des mois magnifiques, etc. Ils le mettent, mais ça ne se vend pas. Parce qu'en fait,
D'où l'existence des agences de marketing.
c'est ça, exactement. Non, mais en fait, tu peux avoir le produit le plus pourri si tu as un très bon marketing, tu
C'est
arrives à
clair.
vendre. Et c'est une chose très importante, les gens, ils oublient, ils peaufinent trop leur idée, leur produit, ils veulent que tout soit parfait, puis après, tu arrives et oh, plus rien. Et il faut aussi pas, c'est une erreur, c'est confondre ta passion avec la passion des autres. Des fois, il y a des gens qui disent, ah oui, mais moi, j'aurais voulu ça. Oui, mais il faut regarder combien d'autres personnes le voudraient. Parce que le but, c'est comme de vendre ça aux plus de personnes. Si tu es trop niché, tu vas lancer et puis tu auras, voilà, après une année, tu auras vendu à toutes ces personnes qui seront intéressées.
Ouais, bien analyser la demande.
C'est ça. Bien
C'est.
analyser, demander conseil à des gens, essayer de voir combien de personnes sont intéressées, se focaliser sur la vente du produit ou le développement marketing de ce produit-là. Et des fois, ça te permet, tu peux même tourner à vide. L'idée, c'est, moi, j'ai utilisé cette stratégie, c'est que tu fais juste une page de vente. Marque les produits, tu fais une pub Facebook. Tu regardes combien de personnes ont cliqué, combien de personnes ont mis son email après, et ça te donne déjà un indice sur les personnes intéressées sur ça. Tu n'as encore rien développé. Et c'est la meilleure étude marketing que tu peux faire. Aujourd'hui, tu peux faire une
C'est
étude
brillant.
marketing pour 2000 francs, même moins 1000 francs, tu mets, Si personne n'a cliqué et personne n'a laissé son email parce que le produit va sortir,
Ouais.
tu dis, ouais, c'est peut-être pas
C'est
la meilleure
brillant.
idée.
Ouais. C'est brillant. En tout cas, merci beaucoup. Le site Bodysport est très très bien fait. Je te fais pas de la pub gratuite.
Ça
C'est
me fait
simplement
plaisir,
que
on se rend plus
si
compte des fois.
non, mais vraiment, si les auditeurs veulent achètent du produit de nutrition, c'est-à-dire même des produits cosmétiques qui sont excellents, des produits, des vitamines ou des
Ouais.
produits pour le sport, c'est vraiment votre site est vraiment bien. Et je dois vraiment me souligner parce que je suis une personne qui est extrêmement sensible sur le service après-vente et sur le service d'une manière générale. Et votre service est assez exceptionnel, c'est que la livraison est immédiate et c'est quand même agréable. Et je crois que, et ça, c'est peut-être une question encore, est-ce que les Suisses commandent quand même plus sur des sites e-commerce suisses? Parce que moi, je suis
Clairement,
comme ça.
clairement.
Ok.
Déjà parce que quand tu commandes à l'étranger, tu as déjà les frais de douane, tu ne sais jamais trop. Et les Suisses sont quand même sensibles alors, au prix, mais ils sont en premier lieu sensibles au service et à la livraison. C'est-à-dire que là, tu commandes jusqu'à 16h chez nous, 17h, le lendemain à 8h, tu as ta commande. Et du
Ce qui est assez
coup,
incroyable,
c'est incroyable. Et ça,
franchement.
voilà, tu commandes à l'étranger, tu as des frais de douane,
Ouais.
etc. Le service après-vente, tu ne sais pas. Donc les Suisses sont très sensibles à consommer en Suisse et peu importe le prix. Après, il ne faut pas qu'il soit non
Il
plus
faut pas le.
exagéré.
Ouais.
Mais pour 4-5 francs de différence, un Suisse ne va pas commander à l'étranger.
Faisons marcher notre économie locale.
C'est magnifique ça.
Non, bodysport.ch pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir ton entreprise.
Merci.
Bravo pour ce que tu as fait. Merci énormément pour ton temps.
Merci à toi pour l'invitation.